Même audio. Vous ne l'avez pas vu? Vous pouvez l'entendre.
Alors, je suis le petit-fils aîné de Odette Larocque, qui était à Toulouse dans les années 41, peut-être, en tout cas sûrement 42, jusqu'à 1943. Elle avait commencé sa carrière d'opposant à Vichy. Elle avait été embauchée en 1939, le 1er septembre 1939, au secrétariat d'État à la production industrielle, qui était rue de la Croix-Nivert à Paris. Dans ce secrétariat, il y avait une direction, une des nombreuses directions, qui était administrée, animée par un polytechnicien qui s'appelait Louis Ripert Dalhousie. Il travaillait à la production industrielle qui deviendra la production d'armement, etc., au début de la guerre. Elle commence effectivement son travail en novembre 1939 et jusqu'en juillet 40, elle reste à Paris et à ce moment-là, le gouvernement pétainiste se déplace à Vichy. Ma grand-mère, fonctionnaire, se déplace à Vichy. Et s'installe, elle s'installe au secrétariat et elle est logée à l'hôtel Midland à Vichy avec ma mère qui avait donc en 1940, ma mère avait 10 ans et elle a été rejointe par sa mère, sa propre mère, mon arrière-grand-mère et sa sœur, ma tante Denise, qui arrivait du Luxembourg puisque ma grand-mère était luxembourgeoise de naissance. À Vichy, en janvier 1941, Louis Ripert signe une circulaire rappelant que tous les fonctionnaires, tous les agents de l'État, en dehors de quelques-uns, bien précis, d'origine juive, sont à exclure immédiatement, sans préavis, sans délai, sans indemnisation, etc. Nous sommes quand même dans une administration française encore à l'époque. On traîne un peu les choses, on laisse aller. Mais à un moment donné, les choses sérieuses interviennent. Fin 1941, ma grand-mère est appelée, pour ceux qui sont fonctionnaires et savent ce que c'est, à signer sa note administrative. Hein. Donc on lui fait signer sa note administrative, je ne sais plus combien c'était, et il y a c'était très bien, les notes administratives sont toujours très bonnes, mais elle signe cette note et la fonctionnaire qui l'a fait signer met une petite remarque, tombe sous le coup des lois d'octobre 1940. Ça veut dire que, à dégager. Là, ma mère s'entend dire par sa propre mère, on fiche le camp, ça sent le roussi. Mais il fallait bien aller quelque part. Croquette, qui est ma grand-mère, avait travaillé avant la guerre, dans les quelques mois qui précèdent la guerre, qui précèdent septembre 1939, elle avait travaillé rue Cuvier, à Paris, dans une maison qui s'appelait les Éditions Techniques. Dans les Éditions Techniques, il y avait plusieurs branches. Il publiait des petits fascicules, des petits feuillets, feuillets techniques, feuillets juridiques, et feuillets médicaux. Ma grand-mère dirigeait la partie édition médicale et chirurgicale. Elle reprend contact, c'est moi qui interprète cela comme ça, elle reprend contact avec ses anciens employeurs. Anciens employeurs qui lui avaient toujours dit, avant la guerre, ça, c'est elle qui me l'a dit, si vous recherchez du travail, on vous reprend tout de suite. Donc elle reprend contact avec ses anciens employeurs, ici, qui s'était replié à Toulouse, ici, je ne sais jamais prononcer le nom de cette rue, rue Négrénis ou quelque chose. Voilà, le bâtiment, ça fait 25 ans que je viens à Toulouse, je n'ai jamais su prononcer le nom de cette rue. J'en parlerai à mon analyste, mais le bâtiment n'existe plus, il a été détruit depuis, etc. Les éditions techniques sont dirigées ici à Toulouse, à cette époque, par Francis Durieux, qui est le fondateur des éditions techniques, et par son adjoint, c'est peut-être maintenant un ami, qui s'appelle Courtin. Ici, Francis Durieux l'embauche immédiatement, hein, et elle dirige une équipe de 20 personnes, et elle continue une activité. Cette activité, je n'ai pas pu la définir bien précisément, en tout cas, il se trouve que à un moment donné, comme beaucoup d'adolescentes, ma mère a attrapé, je crois, la rougeole. Et il fallait bien faire venir un médecin. Et qui fait-on venir ? Le docteur Lévy. Il est un fait que Lévy n'avait pas le droit de travailler, il était juif. Il est arrivé d'Antibes à Toulouse, officiellement, pour soigner ma mère. J'ai beaucoup de mal à me dire que on a fait venir un médecin de province pour soigner une petite fille de 10 ans, 11 ans à l'époque. En tout cas, il vient à Toulouse. Il était déjà venu précédemment pour soigner pour une autre tite quelconque de ma mère. Il était déjà venu à Vichy. Chaque fois que ma mère était un peu malade, on faisait venir le docteur Lévy. C'est pas compliqué, hein. Le docteur Lévy était le médecin accoucheur de ma grand-mère. Elle le connaissait avant la guerre. C'est lui qui avait fait naître ma mère, si je puis dire. Entre parenthèses, le docteur Hanon, dont il a été question tout à l'heure, il m'a fait naître moi. Et donc, on est resté dans une filiation. Il est venu à Toulouse soigner ma mère, qui s'en est bien remise, merci. Et puis, il est reparti. Hein. Il faisait une tournée dans la région, tournée qu'il a amenée un peu partout. Churchill l'explique dans ses mémoires, dans son mémoire. Churchill était ami avec le docteur Lévy et avec sa femme, qu'on appelait Chat, que j'ai bien connu après la guerre. Chez Lévy avait séjourné Perkins, quand il a débarqué en Félouc sur la plage à Antibes. Il y a un monument qui mémorise le débarquement des agents SO à Antibes. Lévy a été traité d'un petit peu de tous les noms, depuis communiste jusqu'à anarchiste, de jouisseur jusqu'à profiteur, enfin bon, tout. Là où il est, il ne risque plus rien, puisqu'il est mort sur les marches de la mort à Birkenau. En tout cas, il n'était pas communiste, il ne pouvait pas être communiste. Mais par contre, il était médecin obstétricien. Son souci dans la médecine, c'était la douleur des femmes. Il faisait partie d'une équipe, de petite équipe de médecins qui, à l'époque, cherchait les moyens pour mettre au point ce qu'on a appelé ensuite l'accouchement sans douleur. Dans cette petite équipe d'anciens internes des hôpitaux de Paris, il y avait en particulier le docteur Hanon et d'autres médecins. Et il avait une autre particularité, c'est qu'il était franc-maçon. Il avait été dénoncé comme franc-maçon déjà avant la guerre. Et parmi tous les gens qu'il connaissait, qu'il contactait, j'ai retrouvé beaucoup de francs-maçons. Ils n'étaient pas là envoyés par la Grande Loge de France. Non, ils étaient francs-maçons. C'est-à-dire qu'ils pensaient, ils raisonnaient, un idéal commun. Ils avaient déjà une base commune. Il y avait une autre base commune pour Croquette à Toulouse. C'est que ma grand-mère avait été en 1925-26 cheftain guide à Luxembourg. Il faut imaginer Luxembourg en 1925. C'est le coin où un jeune prof ne veut pas être muté. C'est-à-dire, c'était un trou, c'était la mort, Luxembourg. Il n'y avait rien, sauf une organisation, en dehors des organisations religieuses, c'était les guides et les scouts. Et ma grand-mère était guide, cheftain guide, elle avait comme totem Kotick Fock Blanc, et elle animait une équipe de jeunes femmes, jeunes filles plutôt, qui s'appelaient les campeuses bronzées. Elles allaient seules, sans hommes, sur les plages de Belgique pour faire du camping. Et elles étaient en pantalon. C'était à l'époque quelque chose d'osé. Hein. Et quand j'ai rencontré d'anciennes guides, elles m'ont dit que ma grand-mère était quelqu'un d'absolument hors norme, si je puis dire. D'abord, elle portait le pantalon, elle fumait et elle avait un permis de conduire. C'était dans une ville qui ressemblait à quelque chose comme Charleville, je ne sais pas, vous imaginez cela. Elle avait également, Croquette, eu comme relation à Luxembourg une cheftaine qui l'avait formée, si je puis dire, qui s'appelait André Mayrich de naissance. Les Mayrich étaient des gens riches qui dirigeaient, le père Mayrich dirigeait la plus grande entreprise luxembourgeoise de sidérurgie qui était l'Arbède. André Mayrich est devenu ensuite André Viennot. Pour certains, peut-être, vous vous souviendrez de qui était son mari, André Viennot. André Viennot était, dirons, de gauche, puisque André Viennot, fille, a été ensuite député socialiste, membre du PSU, oppositionnel à plein d'événements de l'époque. Et elles sont restées en correspondance, elles étaient restées amies, je peux dire amies, elles étaient amies. Elles se elle se parlait pendant la guerre. Comment communiquait-elle? Je ne sais pas. En tout cas, dans la région toulousaine, pendant la guerre, il y avait quelques luxembourgeois qui étaient réfugiés ici. Ma grand-mère n'avait pas un culte de la luxembourgeoisité, si je puis dire. Mais parmi eux, il y avait un homme qui s'appelait Charles Marx. Il aurait dû s'appeler Karl Marx. Ses parents voulaient l'appeler Karl. On leur a fait comprendre que le nom avait déjà été pris, donc ils l'ont appelé Charles. Donc il s'est appelé Charles Marx, ce qui est pas mal non plus. Hein. Et Charles Marx, qui était un ami de mon oncle, du frère de ma grand-mère, ils avaient fait leurs études ensemble à l'Athénée luxembourgeois, avait ouvert une clinique dans l'Aude, pas très loin d'ici, dans laquelle il soignait les gens du cru, bien évidemment, mais il en soignait aussi de la périphérie, si je puis dire, de l'extérieur. Et comme il était dans l'Aude, il n'était pas très loin de l'Espagne, il organisait des voyages vers l'Espagne. Et à un moment donné, la situation est devenue un petit peu difficile. Charles Marx est parti au maquis dans le Massif central. Ensuite, il a été... Voilà. En 1943, donc, Roquette a été arrêtée en avril 1943. Elle a été internée, je fais court, avec la maman de Michel. Elle a été internée avec Nicou, pour moi c'est Nicou, avec Catherine Vimeau, la fille de Pils, et avec Yvonne Lagrange. Hein. Elles ont été déportées, elles sont restées à Toulouse quelques semaines, puis à Fresnes, puis elles ont été déportées à partir du 31 janvier, dans ce qu'on a appelé le convoi des 27 000, qui est arrivé à Ravensbrück le 3 février. Dans leur transfert, qui n'était pas un voyage de première classe, elles ont quand même eu une chance, le convoi ne s'est pas arrêté à Neubrem. Ensuite, les convois s'arrêteront à Neubrem, à la frontière sarroise, et là, la situation n'était pas du tout facile. À Ravensbrück, elles vont rester pendant presque 6 mois, 5 mois et demi. 5 mois et demi, qu'elles vivent comme une quarantaine. En fait, c'est des quarantaines qui ont été interrompues par des commandos. Et cette quarantaine, je dirais le pire, c'est qu'elles ne faisaient rien. Elles s'ennuyaient, elles se lassaient. Or, Croquette s'était donné, avec d'autres chefs guides, comme mission de leur maintenir le moral. Il fallait absolument maintenir le moral, parce qu'elles avaient deux missions, maintenir le moral et ramener les troupes à la maison. Voilà. Elles savaient qu'elles ne pourraient pas battre militairement les Allemands là-bas, mais il fallait ramener les gens. Et ça, c'était un impératif qui est dans tous les quelques écrits qu'elle a laissés. Il fallait ramener les gens et garder le moral. De Ravensbrück, on va les envoyer en commando extérieur, à Ravensbrück à l'époque, un commando extérieur de Ravensbrück, à Leipzig, dans une entreprise qui s'appelle la HASAG. Peut-être certains d'entre vous savent ce qu'est la HASAG. C'est la Hugo Schneider AG, qui originellement une entreprise de ferblanterie qui fabriquait des articles ménagers, et qui, pardon, avec le développement d'industries pétrolières, s'est lancée dans la fabrication de lampes à pétrole, de réchaud à alcool, enfin de tout ce genre de choses, et à partir du laiton. Ils avaient les machines de laiton. Le cuivre était fourni par les mines qui sont maintenant en Saxe-Anhalt. C'était le même travail que fabriquer des douilles d'obus. C'est la même chose. Hein. On prend une feuille de laiton et on la travaille. En 1905, cette entreprise s'était lancée dans la fabrication de munitions lors de la guerre russo-japonaise. C'était une entreprise, ça avait très bien marché. En 1914, ils ont eu d'énormes commandes, parce que la principale arme à l'époque, de destruction massive, si je puis dire, c'était la mitrailleuse. Or, la mitrailleuse consomme énormément de munitions, et donc c'était la fortune de la HASAG qui s'est mis à fabriquer des munitions, en particulier de mitrailleuses. Ça a été la fortune de la HASAG en 1914-18. En 1919, la HASAG n'a pas été démantelée. En 1919, on n'a pas démantelé les grandes entreprises allemandes, surtout les grandes entreprises installées vers l'Est, plutôt vers Leipzig, etc. À l'époque, ce n'était pas tout à fait l'Est de l'Allemagne, puisque l'Allemagne s'arrêtait plus loin dans ce qui est devenu maintenant la Pologne. Avec la grande dépression des années 20, la HASAG souffre d'un point de vue économique et technique, mais elle se maintient. Les derniers descendants du fondateur de la HASAG, Hugo Schneider, disparaissent sans enfants, et la HASAG passe sous la coupe des banques, en particulier une banque qui s'appelle la Dresdner Bank, qu'on a appelée la banque des SS, La Dresden Bank a été très rapidement contrôlée par les SS et par l'État de Prusse. Le patron de l'État de Prusse étant Göring. La Hugo Schneider a petit à petit devenu une entreprise de la Wehrmacht. Elle s'appelait Wehrmacht Betriebe. Et en 1940-41, bien sûr, elle produit. Et à Schlieben, un petit village qui est au sud de Berlin, à 100 km de Berlin, 100 km de Leipzig, 100 km de Dresde, elle installe un centre de recherche et de développement qui devrait devenir, dans les années après, futures, quand la victoire sera assurée, un centre de production. Bon, le centre de développement, son développement est un petit peu hypothéqué, mais en tout cas, il leur faut du personnel. Le personnel existe. Il y a le personnel des camps de concentration, mais il y a aussi le personnel des entreprises que la ASAG contrôle en Pologne, dans trois sites, Skarskisko-Kamienna, Częstochowa, que certains peut-être connaissent pour d'autres raisons, et Kielce. Avec la pression des soviétiques, les nazis rapatrient du personnel polonais et le rapatrient vers Buchenwald. On assiste donc à ce paradoxe qui n'est pas souvent relevé, c'est qu'ils ont chassé les juifs, puis maintenant ils les font revenir. Pas pour les mêmes raisons, évidemment, mais ils les font revenir. Le personnel qu'ils font revenir, c'est le personnel de leurs usines de Pologne, personnel déjà fatigué, les machines également fatiguées, et ils en font revenir par paquet, mais ils ont aussi besoin d'une main-d'œuvre un petit peu plus servile, à leurs yeux, et un petit peu plus disponible à chaque instant. Ils font venir également 1000 déportés en juillet 1944, depuis Ravensbrück, parmi lesquels il y a environ 500 femmes tziganes, ce qu'on appelle des tziganes. Surtout ne pas prononcer ce mot-là en Allemagne. Ce sont des Roma et des Sintis. Ces tziganes, parmi lesquels il y a des tziganes autrichiennes et des tziganes allemandes. Il n'y a jamais eu de tziganes roumaines ou hongroises à Schlieben. Jamais. C'est une légende. Moi, j'ai étudié les listes de A à Z. Il va falloir finir. Donc, le camp a fini lui aussi, d'ailleurs, en avril 1941. Je finis sur les tziganes parce qu'on a raconté beaucoup d'histoires sur les tziganes dans les camps de concentration. Ça vaudrait quand même de creuser un peu le sujet d'une manière un petit peu plus objective. Lorsque les femmes françaises sont restées à Schlieben, elles n'étaient plus que 147 en septembre 1944. Le chiffre est monté à 250 environ en novembre. Lorsque le camp est liquidé, en mars-avril 1945, elles sont environ 242, 243, etc. Il y a eu plusieurs femmes sont mortes, d'autres sont arrivées, etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à Schlieben, on avait besoin de ces femmes. Et il fallait un groupe de femmes face à cette masse de déportés juifs polonais et hongrois. Il y avait des juifs polonais et hongrois. Quand je dis hongrois, c'est-à-dire des minorités hongroises d'Europe centrale, c'est-à-dire des Roumains qui seraient aujourd'hui Roumains en particulier, ou Yougoslaves. Elles sont là. Quand le camp a été évacué, on a évacué les hommes, un convoi vers Theresienstadt, un convoi vers Bautzen, et on a oublié les femmes. Elles sont restées là dans le camp toutes seules. Elles ont voulu sortir du camp, mais dehors, il y avait la jeunesse hitlérienne un petit peu fanatisée qui tirait dans tous les sens. Il y avait les Russes qui arrivaient, les Russes, c'est-à-dire les Soviétiques. Pour la petite histoire, c'est des Ukrainiens qui sont arrivés. Donc, quel est l'endroit où on était en sécurité ? Eh bien, c'était au camp. Donc, elles sont revenues dans le camp et elles ont attendu que les Américains arrivent. Les Américains étaient à Herzberg, à une vingtaine de kilomètres de Schlieben, mais ce sont les Soviétiques qui sont arrivés. Des petits soldats mongols sur leurs soldats, disait-elle. Qui les ont libérés, ils ont fait la fête pendant un jour ou deux, fête tout à fait tranquille, si je puis dire. Et puis à un moment donné, les Russes leur ont dit, maintenant il faut partir. Alors soit vous passez à Odessa et on vous ramène en bateau, soit vous allez par là-bas et là-bas, il y a les Américains. Ça, c'est la version officielle. La version officieuse, c'est qu'à côté de Schlieben, il y a un petit hameau qui s'appelle Lebouza. À Lebouza, le 5 mai 1945, s'est tenue une réunion très importante entre les états-majors américains et les états-majors russes qui devaient conclure la prise de Berlin. Et donc là, il fallait qu'on dégage le terrain parce qu'il ne fallait pas qu'on montre ce qui n'était pas à montrer. Donc elles sont parties, les survivantes sont parties en plusieurs groupes distincts. Elles ont passé la Mulde, le fleuve qui passait pas très très loin. Elles sont passées par Herzberg et elles ont fait tout un trajet. Et elles sont arrivées sur le bord de l'Elbe et elles ont été prises en charge par les Américains. Elles ne sont revenues à Paris que le 21 mai. Pourquoi ? Parce que la priorité, ce n'était pas les femmes, c'était les hommes. On leur a dit, hein, on ne leur a pas dit, on ne veut pas de vous. Non, non, d'abord les hommes et ensuite les femmes. Le reste...
Merci beaucoup, monsieur Rey. Oui, merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Fanny. On va faire une petite interlude poétique.
Même audio ? Une mémoire sonore.
Bonjour, donc je m'appelle Fanny et je travaille avec Aurélie pour l'association Blossom. On est une association toulousaine de danse, de yoga et de théâtre. Et on est honorée aujourd'hui d'avoir été appelée pour lire des poèmes et des lettres. On va faire de notre mieux, on espère écorcher aucun nom. Et merci beaucoup au musée de nous avoir invités, on a eu la chance d'avoir une... visite et toute une explication au préalable sur le réseau Prunus avant qu'on puisse travailler dessus. Et ça a été un très beau moment pour la troupe et pour le groupe, donc on est très contente et content d'être là. Donc merci.
Donc bonjour à tous. Je vais commencer par vous lire un texte donc, de Marcel Petit. Pourquoi j'ai rédigé ce récit, qui est extrait de l'introduction de son autobiographie « Contrainte par corps ». Lors de cette aventure, j'étais un adulte confirmé. Professeur d'anatomie à l'école vétérinaire de Toulouse, directeur de ce même établissement, avec une famille, trois grands-enfants, et c'est avec des yeux déjà expérimentés que j'en ai suivi le déroulement, m'efforçant de faire front de mon mieux aux épreuves à qui, à la vérité, ne me manquaient pas. En me retournant sur ce passé ineffaçable, je retiens que j'ai eu une chance exceptionnelle, puisque, à l'issue des interrogatoires, nous étions plusieurs promis au peloton d'exécution et que nous avons été expédiés en Allemagne sans espoir de retour. Sur les cinq les plus compromis, deux ont été assassinés en Allemagne. Perkins, le chef de réseau, pendu à Buchenwald le 5 avril 1945, peu avant la libération du camp. Michel Blum, tué à Mauthausen en septembre 1944. À ma connaissance, tous les autres, soit 13 sur 15, sont rentrés en France, ce qui est une proportion considérable, et 5 femmes sur 5, ce qui est plus remarquable encore. Beaucoup étaient malades, tuberculeux à des degrés divers de gravité. Vuimot, 2 ans de Sana, Jean Becquet, Dupin, mort peu après son retour en juillet 1945, tous les autres plus ou moins touchés. Cette expérience m'a aussi enseigné le courage et la résistance exceptionnelle des femmes, qui semblent avoir été observées partout, et aussi la confrontation des hommes avec des problèmes fondamentaux. Le triage impitoyable qui se souciait peu du rang social et les mettait à leur niveau véritable. La familiarité avec la mort, qu'on apprend à considérer d'un œil plus froid. Le commerce des hommes de tout niveau, de toute catégorie, de toute nationalité, tantôt avec pitié ou commisération, parfois avec admiration. Il en ressort également que j'ai eu une chance insigne, la chance se définissant après coup, puisque je retrouvais ma femme et mes enfants et pus survivre en menant une vie presque normale. En tirer philosophie, mettre les épreuves de la vie à leur niveau relatif, cultiver des amitiés fondées sur une expérience unique, trouver la vie belle chaque matin en ouvrant la fenêtre sur de calmes verdures, converser avec mes petits-enfants, vivre d'une vie plus chaude et plus complète, d'avoir été arraché à la tourmente insensée des années 1940-1945. Je vais maintenant vous lire un extrait de la postface du même livre écrit par sa fille, Jacqueline Petit-Balossier. Paris, 1er mai 1945. Il a neigé toute la nuit. Nous arrivons, Monique W. et moi-même, à l'hôtel Lutetia, faire nos débuts officiels et diplômés au service social des prisonniers de guerre et déportés, dans le corps auxiliaire volontaire féminin. Durant 3 mois, de jour ou de nuit, nous accueillerons des revenants et serons confrontés à des fantômes harassés, en même temps que nous mènerons nos propres recherches pour tenter d'avoir des nouvelles de nos pères, de nos amis, sur les panneaux du hall ou à l'hôtel, où, dans la bousculade, les familles consultent les papiers épinglés. Mon père rentrera le 15 mai. Si la plupart des membres du réseau Prunus sont rentrés, comment oublier ceux qui sont morts dans les camps? Ils vivent dans le souvenir que nous maintenons de leur courage et de leur juste combat. Jacqueline Petit.
Donc nous allons vous lire la préface de Leaves of Buchenwald, écrit par François Hitter, membre du réseau Prunus. C'est un recueil de poèmes écrit par Maurice Pertschuk, chef du réseau, et publié à titre posthume. Nous allons vous faire une double lecture en anglais et en français.
Désolée pour mon accent. At Buchenwald, we often spoke about liberation and our return home. The author of this little book once said to me, innumerable joy will come our way, and we will not be able to appreciate them all. I wish I could greet each joy one by one, so that I could live and enjoy it to its fullest.
Il nous arrivait souvent à Buchenwald de parler de la libération et du retour. L'auteur de ce petit recueil m'avait dit un jour, « D'innombrables joies viendront nous assaillir, et nous ne pourrons pas les recevoir, toutes. Je voudrais pouvoir accueillir, une à une, chaque joie retrouvée, pour la vivre dans sa plénitude. »
He was never to have this hope fulfilled. Murdered by the SS on the 29th of March, 1945, 13 days before the liberation of the camp. He left these few poems which I gather together to perpetuate the memory of his young life so full of promise.
Attente passionnée au dénouement atroce. Lâchement assassiné par les SS le 29 mars 1945, 13 jours avant la libération du camp, il laissait ces quelques poèmes que j'ai recueillis pour perpétuer le souvenir de cette jeune vie de 22 ans, immense de promesses.
On my return to France, I went to see his mother. She hardly recognized her son on the photo sent to her by the War Office. She had not seen him for 5 years, and he was a child then, barely 18. She had been living in France since 1939. He was pursuing his studies in England.
Au retour, j'ai vu sa mère, accablée de douleur. Elle ne reconnaissait plus son fils sur la photo envoyée par le War Office. Il l'avait quittée il y a 5 ans, et il était encore un enfant. Elle vivait en France, réfugiée à Montrégeau depuis 1940. Il poursuivait ses études à Londres.
His mother has learned since that he had been in charge of an information network in the southwest of France, and that during the 2 whole years, he came every week to the little village of Montrégeau, where she was staying as a refugee. She never had the joy of meeting him, but a friend in Montrégeau told me that at each visit there, he would spend hours at his window, looking at his mother's house.
Elle a su depuis qu'il était chef d'un réseau de renseignement dans le sud-ouest de la France, et que pendant 2 ans, une fois par semaine, il venait dans cette même ville où elle habitait. Elle n'eut jamais le bonheur de le voir. Un ami de Montrégeau m'a dit qu'à chacune de ses visites, il restait longtemps à la fenêtre, contemplant la maison de sa mère.
I know now that his real name was Maurice Pertschuk, but for his friends who grew to know and love him in the resistance and in exile, he will always remain as Martin Perkins, that tall, slim boy of 22, with his white forehead, his dark blue eyes, forever deep in thought.
Je sais aussi que son nom véritable est Maurice Pertschuk, mais pour tous ses amis qui l'ont connu et aimé dans la résistance et en exil, il sera toujours Martin Perkins. Ce grand garçon, frêle, avec son front de penseur et ses yeux profonds, reflétant une perpétuelle méditation intérieure.
His purity, his sensitiveness are in his poems. These poems help him to escape from the hell of the concentration camp. They will also make him live forever in our memories.
Sa pureté et sa sensibilité, je les retrouve dans ses vers. Ses vers lui ont permis de s'évader de l'enfer du camp. Ils le font revivre à jamais dans notre mémoire.
As he wrote, for it all passes by like a shadowy dream that never was, we will reply, yes, all passes by, but the grief of a mother and the sorrow of a friend.
Et s'il écrit, car tout passe, comme l'ombre d'un rêve qui n'a jamais été, nous répondrons, oui, tout passe, sauf la douleur d'une mère et la peine d'un ami. François Hitter.
« Nous allons vous lire maintenant quelques poèmes retranscrits de Janine Messerli dans son livre « Là d'où je viens ». Sur le plateau où trois bouleaux dansent dans l'ombre.
Dans la boue noire où collent et claquent nos pas.
Le ciel, plein de nuages, joue un drame.
Les yeux fermés, je marche, géante, les pieds collés au monde. Ma tête longue poit sous les étoiles.
Vent, tu viens au-devant de moi. Tu accours, tu m'enlaces. Ta main froide glisse et me glace. Je ne puis rien et me laisse à toi. Nu, je m'abandonne à la caresse de ton amour.
Dans la nuit sinistre, je glisse.
Petite, tu m'as prise dans tes bras. Tu me portes au-dessus de tout mal. Dans le firmament, le drame se finit.
Le sang gicle sur ma robe avec d'étranges lueurs roses où lugubre chante la mort.
Donc, je vais vous lire un autre extrait du recueil « Là d'où je viens ». Le mur des fusillés. Il y a un souffle chaud sur les branches. Il y a un nuage léger dans le ciel froid. Il y a le son d'une cloche lointaine dans la plaine et le gémissement d'un chevreuil dans les bois. Il y a un bruit léger sur le mur et des pas sur la terre dure. Il y a le cliquetis métallique, puis le silence. Et la terre trembla. Le soleil s'était levé, février souriait dans la campagne. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Que des pas sur la terre dure, que des hommes qui chantaient dans les bois, que des hommes qui serraient les poings. Fresnes, 1943.
Donc voici le poème « Là d'où je viens », extrait du recueil du même nom. Là d'où je viens, il n'y a pas de mots tendres qui chantent à vos oreilles le soir pour vous bercer.
Là d'où je viens, la terre est noire, comme la cendre de nos espoirs persécutés.
Là d'où je viens, la poudre a une odeur de pomme. La poudre empoisonneuse est une fleur jaune qui tue.
Là d'où je viens, il n'y a plus d'hommes.
Il n'y a plus de squelette d'homme.
Il n'y a plus qu'une ombre d'homme qui n'est pas sûre de ne pas être mort.
Je vais vous lire la retranscription en français de la lettre de Maurice, donc Martin Perkins, à Madame Wilmot, dont la fille Catherine et le mari Pierre sont aussi membres du réseau qui ont été arrêtés et déportés en même temps que lui. Donc la lettre a été écrite en allemand à la base pour passer la censure. Et on voit sur la lettre originale les marques de censure qui sont donc les marques bleues. Le 16 juillet 1944. « Chère Madame Wilmot, j'ai reçu votre lettre du 1er juin et hier une lettre de Marianne. Comme vous n'avez pas reçu de nouvelles de Catherine, je pense qu'elle a peut-être été transportée vers un autre endroit et qu'elle n'a pas encore obtenu l'autorisation pour écrire. Je vous remercie pour les colis que j'ai jusque-là régulièrement reçus. Notre santé et notre morale sont toujours excellents. J'espère que toute votre famille se porte, elle aussi. Je pense que vous allez certainement partir au Mondeur avec Bernard » ou bien aller à la Pouge. Vous vivez maintenant à Paris, d'après la lettre de Marianne. Cela ne semble pas très pratique. J'espère qu'elle a bien réussi son examen. Je suis sincèrement désolée d'apprendre la nouvelle concernant Pierre, mais je ne pense pas qu'il fait perdre complètement espoir. La bonne nouvelle d'un éventuel sauvetage prendrait du temps pour vous atteindre. Je vous envoie, chère madame, mes plus sincères salutations. Martin.
Je vais maintenant vous lire quelques poèmes de Maurice Pertuc. Alors le premier, « J'ai goûté au soleil ». J'ai goûté le soleil au fond de mon jardin. Il sentait le jasmin et la blonde groseille. J'ai trouvé une larme sur les cils d'une rose. Je cherchais autre chose, une ombre, peut-être un charme. Oui, je cherchais le seuil de ce songe lointain où l'odeur du matin palpitait dans les feuilles.
Je vais vous lire maintenant un autre poème donc, écrit par Maurice Pertuc, qui s'appelle « Un parfum ». Un parfum rend l'air lourd, un parfum blond, sauvage, l'odeur d'un paysage où se penche le jour. La lune aux cheveux fous, au regard frêle et laiteux, baigne de flots bleus mon rêve sous.
Je vais vous lire également un poème de Maurice Pertschuk qui était écrit en anglais et qui a été traduit. Le vent. Il y a du blé couleur de lune et le vent sent le foin. Le temps fond des branches dans l'argile aux fraises. Mozart tisse une riche musique comme une dentelle qui tombe du ciel et ombrage mon visage. Je nage dans une mer de rouille fumante, poursuivant les jeunes nymphes qui répandent de la poussière de lune sous la chair brûlante de la terre.
Un poème extrait de Leaves of Buchenwald. La peine murmurante de la pluie dans mon cœur.
Et la musique qui diffuse à travers mes rêves, chaque note comme un pétale tombant sur l'herbe.
Dans chaque pétale, le tintinnement du verre.
Ô Seigneur, laisse-moi rêver.
Laisse-moi dériver sur une vague de cet enfer crasseux.
Laisse les embruns et l'océan osciller, sa houle apaisante.
Laisse-moi rêver d'un monde de silence.
Oh, laisse-moi essayer.
Avec la lune se balançant doucement dans un ciel rêveur.
Un autre poème de mémoire aussi, de choses qui étaient un peu plus peut-être douces mais aussi métaphoriques à vivre. Automne. La musique des feuilles.
Douce vague.
Un fin filet qui capture l'oiseau errant dans son vol et qui gracieusement flotte dans la lumière.
L'air est bleu et froid, éteinte comme une clochette.
Le vert se mêle alors sous son charme.
Depuis le sommet hirsute du chêne, le gel s'écoule sans bruit et mesure goutte à goutte l'éternité.
Elle coiffe les mèches de son front et frotte ses yeux ensommeillés.
Son âme ondulant toujours à la cadence d'un rêve.
Les ombres lilas joint dans les rayons de lune fondant.
Mais le vent murmure doucement.
Debout.
Debout.
Avec un bâillement lasse, elle secoue sa tête ébouriffée et inhale l'aube avec un lent délice.
Mais l'odeur de son corps s'accroche toujours au lit, avec les dernières braises de la nuit.
Il y a des épis colorés de lune et l'odeur du foin flottant.
Le temps fond sur les branches dans la boue rose.
Mozart tisse une riche musique, pareille à la dentelle qui tombe des cieux et ombre mon visage.
Je nage à travers une mer de rouille incandescente, pourchassant de jeunes nymphes qui parsèment la poussière de lune sur la chair brûlante de la terre.
Merci. Je vais vous lire la lettre d'Odette Larocque, une des agentes de liaison du réseau, à la maman de Maurice. 24 rue Galilée, Paris, le 6 juillet 1945. Madame, c'est avec douleur que j'ai appris, en revenant de captivité, quel sort avait été réservé à votre fils, à mon chef et ami. J'ai travaillé pendant de longs mois en collaboration étroite avec lui et j'ai pu apprécier toute la valeur et l'intelligence de celui que j'appelais Gérard. Nous avons été arrêtés le même jour, déportés le même jour. Et j'avais espoir que jusqu'à la fin, de le retrouver. Je me puis encore m'imaginer que nous ne reverrons plus ce chef merveilleux. Le service anglais m'a remis la veste que portait votre fils pendant sa captivité. Je pensais venir vous l'apporter en moi-même, mais mon voyage dans le Midi a été remis. Cependant, j'aurais aimé vous connaître et vous parler de l'activité de Gérard. Dois-je vous envoyer la veste par la poste ou voulez-vous attendre un ou deux mois avant de la recevoir? Je serai heureuse, si cela ne ravive pas trop votre douleur, de recevoir un mot de vous. Croyez à mes sentiments bien chagrinés, Odette Larocque, alias Croquette.
Donc nous allons terminer avec un dernier poème de Maurice Pertschuk, Nuit d'été. Oh, la pâleur nacrée de ces doux soirs d'été où l'ombre caressait de ses mains trop savantes nos âmes enlacées. Pauvre rêve, noyé par la clarté naissante de l'aube, se glissant des profondeurs ouatées d'un sommeil sans lien. Le vent laissait couler ses cheveux dans les tiens.
Un grand merci à vous, merci à Fanny d'avoir fait la connexion. C'était très, très émouvant de vous entendre lire ces différents mots.
Même audio, une mémoire sonore.